Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure.
Je parle pas de légitimité. Avant moi, il y a eu François Delmas, il y a eu Georges Frêche. Voilà, donc je veux dire, bon, c'est dans le sens, un peu, j'allais dire, un peu du passé.
Cette affiche, elle est rassurante. Elle est rassurante pour les Mitterrands qui savent qu'ils ont une police à leur disposition, une police qui est armée.
Je pense que c'est le signe d'une grande ignorance.
Des vignerons manifestent pour la libération de deux des leurs, détenus après une action contre l'importation de vin italien bon marché.
Hier, c'est demain.
Eh bien, je retrouve Jean-Pierre Foubert avec plaisir pour cette petite, on va dire, chronique « Hier, c'est demain ». Alors, le principe est simple. J'ai Jean-Pierre Foubert à côté de moi, qui est une sorte de mémoire vivante de notre région, surtout, disons, dans la région de Montpellier et le département de l'Hérault, hein, surtout ça, Montpellier, département, métropole. Et on va lui faire parler sur ses souvenirs et pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme peut-être de conclusion pour demain. C'était hier qu'il va nous raconter, mais peut-être qu'il y a des choses qui pourraient nous intéresser pour le présent et l'avenir. Alors Jean-Pierre, on avait fait une petite présentation de cette chronique. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors vous avez dit, ça fait 50 ans que vous êtes arrivé à Montpellier, c'est bien ça?
C'est ça.
Alors eh ben, écoutez, vous avez forcément des choses à nous raconter en 50 ans. Et puis on pourra même aller au-delà, on pourra parler aussi plus d'histoire, entre guillemets. Puisque nous, on raconte des histoires, mais on ne fait pas de l'histoire avec un grand H. Hein, c'est bien ça. Alors, 50 ans, il y a 50 ans, quelles sont les premières rencontres quand vous débarquez ici à Montpellier?
J'arrive à Montpellier, je viens d'avoir le bac et donc...
Vous venez de quelle région quand même pour information?
Je viens d'un peu partout parce que j'avais un père militaire.
Ah oui.
Donc je suis né dans une caserne à Dijon et puis j'ai habité à Douai, à Paris, en Allemagne, à Granville, à côté du Mont-Saint-Michel, à côté de Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis un jour, mutation à Poitiers, d'où je viens, voilà. et ensuite Montpellier.
Voilà. Donc vous arriviez de Poitiers. Oui. Quand vous êtes arrivé à Montpellier en tant qu'étudiant.
En tant qu'étudiant. Et donc, le hasard fait que une rencontre avec une collègue avec qui je fais mes études à l'université.
Alors là, vous avez une vingtaine d'années pour retracer. Enfin, on remet dans le contexte. Hein. Jean-Pierre a 20 ans quand il vous parle.
Voilà. Et on n'a plus tous les jours 20 ans. C'est bien connu. Et donc, je rencontre tout à fait par hasard le mari d'une de mes collègues de la fac, d'une de mes condisciples de la fac, et qui est, lui, un jeune professeur, un jeune maître de conférence à la fac de droit, et qui, parce qu'on sympathise, me dit, j'ai un de mes collègues qui vient d'arriver, qui est un type absolument incroyable, il est là depuis 2 mois, et il m'explique qu'il a envie de, toi qui t'intéresses à la politique, faut que je te le fasse rencontrer, parce qu'il dit, c'est incroyable, comme on ne disait pas à l'époque, il pense que Montpellier est une pépite, et que ça vaudrait le coup, effectivement, de changer la politique qui s'y mène. Et ce personnage donc, que je rencontre en janvier 1970 s'appelle Georges Frêche.
1970, donc vous êtes un des premiers avec qui Georges Frêche va échanger des idées, il va vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes en études de sociologie. Hein.
Absolument, je fais des études de sociologie. La première question, une fois que la présentation est faite, la première question qu'il me pose, il me dit, mais toi qui es étudiant en sociologie, est-ce que tu peux m'expliquer Montpellier, c'est quoi? C'est qui?
Comment ça fonctionne?
Oui, puis qui sont les Montpellierains, quoi? Comment c'est constitué?
Ah, c'est compliqué déjà.
C'est assez compliqué. Alors, je dois dire que moi, qui étais en première année de sociologie, je me dis, oula, ça commence mal. Mais en fait, ça commençait très, très, très bien. Ouais. Et il m'explique qu'effectivement, comme il va y avoir des élections municipales en 1971, en mars 1971, il voudrait constituer une équipe qui soit ce qu'on appelle maintenant un think tank, de gens qui soient un peu extérieur au système des partis, etc., etc., et pour pouvoir réfléchir à une politique qui pourrait être menée à Montpellier. Et,
donc ça, c'est 1970, hein, nous sommes bien d'accord. Alors, donc c'est vraiment le début de l'ère fraîche.
Absolument. Et donc, il pense qu'on peut arriver à transformer la ville, à s'appuyer sur la réalité sociologique de cette ville. Et donc, il demande, nous sommes 3 ou 4, à constituer une équipe qui va permettre de s'attaquer à un pilier local qui est l'ancien maire qui s'appelle François Delmas.
Voilà, rappelez-nous, donc, en 2 mots, bien sûr, c'est une toute petite émission, hein, mais en 2 mots, c'était comment comment Montpellier sur M. Delmas
alors c'est une ville que certains appellent la douce endormie, oui, oui. C'est-à-dire où il se passe... D'un point de vue culturel, il y a deux ou trois grandes opérations qui se passent
à l'année.
À l'Opéra de Montpellier, oui. Enfin l'Opéra Comédie, mmh. Hein, c'est-à-dire un petit spectacle où la petite bourgeoisie montpelliéraine vient s'encanailler avec les Galati Chadel, oui. Qui sont des spectacles un petit peu casino de Paris avec...
avec des femmes dénudées.
Dénudées et emplumées, emplumées, ai-je dit.
Et c'était ça la vie culturelle.
Et puis... un théâtre de boulevard qui ah oui. Était les Gala Carcinti qui était les théâtres de boulevard tels qu'on avait à Paris, ah oui. Plus une vedette qui venait de temps en temps. Alors les vedettes pouvaient être aussi bien Johnny Hallyday que Léo Ferré ou des gens comme ça.
Oui. Mais c'était quand même une vie culturelle très très limitée, on peut dire.
Alors très calme, la grosse animation, et c'est vrai, et c'était sa richesse à l'époque, c'était le cinéma. D'ailleurs, c'est resté quelque chose de... Il y avait, je ne sais plus combien, 21 ou 22 salles
de cinéma.
Et ciné-clubs avec les ciné des facs, etc. Et donc, il y avait une vie cinématographique importante. Et puis, il y avait quand même...
Les étudiants.
Il y avait les étudiants et il y avait surtout un coin d'animation absolument extraordinaire qui était en dehors de la place de la Comédie et des deux cafés essentiels qui étaient le Yabon et le Yamieux partagés par les étudiants. Il y avait la plage de Palavas.
Ah, voilà. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre, on a... Vous avez mis l'eau à la bouche. On voit le début. Alors, on va faire une saga, je suppose. On va continuer à suivre votre parcours avec, entre autres, celui de Georges Frêche et puis propre, et puis d'autres personnes aussi, d'autres personnages vont intervenir. La prochaine fois, peut-être qu'on va, on va pousser de 70, 71, 73.
Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure.
Je parle pas de légitimité. Avant moi, il y a eu François Delmas, il y a eu Georges Frêche, voilà. Donc, je veux dire, bon, c'est dans le sens, un peu, j'allais dire, un peu du passé.
Cette affiche, elle est rassurante. Elle est rassurante pour les Mitterrands qui savent qu'ils ont une police à leur disposition, une police qui est armée.
Je pense que c'est le signe d'une grande ignorance.
Des vignerons manifestent pour la libération de deux des leurs, détenus après une action contre l'importation de vin italien bon marché.
Hier... C'est demain.